On commence à connaître un peu Wesley Peach et son style, son caractère, très agréable, je trouve. C'est le fun d'être devant un bon enseignant, n'est-ce pas? Puis c'est vraiment le fun d'être devant ces histoires de Jésus qui rencontrent du monde. Fait que merci Wesley pour tous les préparatifs que tu as faits. Durant des années déjà, je pense. Voilà, on passe à la prochaine étape.
Moi, je suis convaincu qu'on est rendu à un point où on a plus de technologie que de capacité humaine, donc on verra bien. À la page 9-10, j'ai fait un tableau provisoire de comparaison des 7 conversations. Amusez-vous bien avec ça. Pas besoin d'être d'accord avec mon évaluation de c'était quoi le besoin ressenti ou à quel point la personne était sérieuse et tout. Mais c'est juste de voir à la toute fin en bas de la page 10 ou sur le côté de page 10 si vous tournez à l'horizontale. J'aimerais juste, la grande idée, ce que je voulais vous donner en fin de semaine, c'était en voyant les 7 rencontres. Okay? Première chose qui nous frappe, c'est la diversité des profils. Okay? C'est ça mon idée. Jésus est capable d'accueillir toutes sortes de cheminements de vie, toutes sortes de situations, toutes sortes de besoins. Il ne met pas les personnes dans une boîte et là, il faut croire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est tout dans l'envers. Il y a des gens sérieux, il y a des gens pas sérieux, il y a toutes sortes de monde et Jésus les accueille un à un pour dire « qu'est-ce que je peux faire avec toi pour avancer dans ton corps, pour me connaître et pour me prendre comme votre sauveur. » Okay? C'est ça l'idée. Okay? J'espère que c'est clair, mais dans les profils, c'est tellement divers. Là, j'aimerais aussi juste souligner l'idée que l'influence des autres dans les conversations, c'est presque jamais une conversation un à un. C'est toujours un contexte. Pourquoi la personne est là? Les autres personnes autour, ça a une influence dans la situation. Et que vous serez toujours en conversation avec quelqu'un, mais il y a toujours d'autres personnes, veut pas, dans la situation qui donne que... il faut toujours gérer ça aussi, que c'est pas juste avec cette personne que je parle. Je parle avec sa famille derrière, je parle avec ses amis autour, je parle avec qu'est-ce que les gens vont penser. Donc, c'est toujours en 3D les conversations. Okay? Donc, qui était le cas avec Jésus? Une troisième observation. J'ai trouvé ce mot-là dans mon dictionnaire Word, donc ça doit exister. L'imprédictibilité. OK? Dites ça avec moi. L'imprédictibilité, on est réveillé, entre le besoin ressenti et la profession de foi. Les gens viennent pour une raison quelconque, et des raisons très différentes l'une de l'autre. Et qu'est-ce qui ressort comme confession de foi n'a pas nécessairement la logique qu'on croirait qui devrait être là. Les personnes qui sont distantes, qui sont un peu intriguées, finissent par dire des grandes choses à la fin. Et ceux qui sont très, très emballés, on pense que, là, c'est évident, ça va. Jésus les repousse. Donc, il n'y a pas de... On ne sait pas quelle conversation va amener quoi, va aboutir sur quoi comme résultat. Donc, on calcule, on a une idée, on sait, ça va être. Et attention, là, dans les conversations de Jésus, ça n'a presque jamais été ce qu'on croirait que ça allait être. OK? Donc, arrêtons de calculer ou de savoir d'avance qu'est-ce que ça va donner. Ou qu'à la fin de la conversation, on sait que, mais vous ne savez pas qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas. OK? Donc, bienvenue au monde, on n'est pas Dieu. Bon? Numéro 4, le rôle stratégique des malentendus. On a vu beaucoup de malentendus dans ces conversations-là. N'ayons pas peur de ces malentendus-là. OK? Jésus les a faits, ça a l'air par exprès, et on dirait que non. On dit, il n'a pas compris du tout. J'ai dit tellement la mauvaise chose. Non, mais ça fait partie de la game. OK? C'est juste ça. C'est pas long dans ça. Cinquième, la place de la repentance. Quand il y a quelqu'un qui est prêt à dire, OK, là, je veux suivre Jésus. Là, c'est la question. Quand la personne n'était pas prête à faire ça, Jésus l'a envoyé promener. Vraiment, là, il dit, là, t'es pas prêt. Tu veux d'autres dieux dans ta vie? Ah, c'est une discussion théorique, mais là, on n'avance pas. Mon frère, quand il était à l'université, il était un ingénieur en Pennsylvanie, dans une école toute pour gars. Mais son coloc a dit, parce que mon frère était dans GBU sur son campus, et son coloc a dit, écoute, Bill, écoute, là, si tu me donnais une visite guidée de la création de l'univers et de toute l'histoire humaine et de voir l'enfer et de voir le ciel, et de voir Jésus mourir sur la croix et tout ça, là, pour me prouver que c'était vrai, je ne veux pas de ça. OK? C'est-tu clair? Arrête-moi de me convaincre de da-da-da-da-da. Je ne veux pas avoir ton Dieu dans ma vie. OK? Là, ça c'est une question de repentance. Qui est le Dieu de ta vie? Et nous pensons, et j'ai vu ça dans les sketchs hier soir, nous pensons que le problème, c'est vraiment que la personne n'est pas convaincue de tel quelque chose parce que, OK? C'est vrai, il faut avoir des réponses, des bonnes réponses pour des questions honnêtes, pour des questions sincères. Mais aussi, dans nos conversations, on dit, est-ce que c'est ça vraiment le problème? Ça se peut que ça soit le problème, OK? Francis Schaeffer était réponse honnête aux questions honnêtes. OK? J'achète ça. On a besoin de toujours être plus affiné dans ça. Mais derrière ça, je me demande combien de fois on a quelqu'un qui veut juste pas avoir le vrai Dieu de l'univers lui dire quoi faire. OK? C'est juste, est-ce possible? OK? Et quand Jésus spot ça dans la vie de quelqu'un, il dit, bon, reviens quand tu es prêt. Garde-le. Non, go. Il n'embarque pas dans une réunion de seeker. Go away. C'est carrément, il dit, là, tu n'es pas prêt. Et d'avoir dit ça à haute voix, parce que j'étais dans une situation difficile dans mon église dernièrement, et la personne a dit, je ne peux pas, et la personne a pris des mauvaises décisions. Et elle dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je dis, mais madame, tu as fait bien des choses dans ta vie, que tu as décidé telle et telle, tu es une femme forte, tu peux changer ça. Ah, mais je ne veux pas. OK? De l'avoir dit, de l'avoir entendu elle-même dire ça, OK, c'est déjà une remise en question. Elle doit retourner à la maison pour dire, j'ai dit, je ne veux pas. J'ai dit ça. Okay, donc, vous voyez, le jeune homme riche a dû quitter la présence de Jésus en disant, je ne veux pas laisser mes richesses pour toi. Okay? Il a vu Jésus droit dans les yeux et le reste de sa vie, je ne sais pas s'il est jamais revenu, peut-être il est revenu, on ne sait pas. Mais là, il a vu toutes ses richesses et il a dû toujours se demander, ça vaut-tu ça? Tout ça, c'est-tu aussi bien que ça d'avoir toutes ces richesses-là par rapport à Jésus qui m'a invité? Donc, il est toujours en remise en question. Veux pas, là. OK, bon, je prêche. On est dimanche matin, excuse. Ça, c'est juste une habitude. On pèse sur play, puis ça play. Bon, numéro 6, l'importance des gestes comme profession de foi, parfois sans parole. OK, Jésus est capable d'accueillir les gens qui expriment leur foi par d'autres choses que nécessairement une confession de foi toute bien montée. OK? On a vu ça. Numéro 7, le contenu salutaire véhiculé par Jésus, le contenu de la foi, le salut. C'est dans ces conversations, j'essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a de commun entre. Et on verra ça encore avec Zachée et le bon larron ce matin, si je prêche pas trop avant d'arriver là. Mais c'est l'accueil de chaque personne en premier. L'accueil de chaque personne telle qu'elle est. Et que cette personne doit faire une prise de conscience d'un problème de base. Et le problème de base varie, là. La manifestation de la rébellion contre Dieu, d'avoir offensé Dieu, cette manifestation est différente selon le cas, là. Le problème de base, c'est de ne pas vouloir avoir Dieu dans notre vie, OK? Mais ça prend toutes sortes de formes. C'est quoi le problème pour la personne? Comme la Samaritaine, c'était son problème de trop de messieurs et son échec et son désespoir. Le problème de Nicodème, c'était une autosuffisance spirituelle qui est beau et fin, il n'a pas besoin de rien. Voyez-vous, le problème est très différent. Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'on parle des vraies choses dans la vie de cette personne-là ou juste est-ce qu'on est en discussion de qui a la bonne religion? Et on tombe toujours dans ça. Et que la solution est dans la personne de Jésus-Christ. C'est pas, la solution n'est pas dans ma religion. La solution n'est pas dans mon église. La solution n'est pas dans notre camp GBU. La solution n'est pas dans le mouvement évangélique, surtout pas. Et tout ça là. OK? On peut avoir honte de tout ça pour toutes les gaffes qu'on fait. C'est vrai. Mais Jésus ne fait pas de gaffes. Okay? C'est lui la solution. Okay? Donc, dans ça. OK, ça va pour ça? Amusez-vous bien. Trouvez d'autres catégories, d'autres rubriques, d'autres comparaisons. Ce que j'ai voulu faire avec ça, c'est quoi le plan de Jésus dans tout ça? C'est quoi son approche, là? C'est quoi sa stratégie dans tout ça? Bon, on était pour reprendre maintenant Zachée. Si je peux aller au début de Zachée, je vais réviser ça. Un autre verset, avec Zachée, on est à quelle page, nous? Ça doit être à la page 6. OK. Non? 6, en bas, là, 6, c'est ça. OK. Encore, le but de nos rencontres, c'est de voir que nous aurons tous une rencontre. Un autre verset, 2 Corinthiens 11. « Car je suis jaloux, dit l'apôtre Paul, à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Un de mes sports intérieurs préférés, c'est de faire des mariages. Et je suis souvent à côté d'un homme qui attend... Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah, c'est un sport, là. Et là, le devoir d'être à côté d'un marié qui voit son épouse avancer, de voir l'électricité entre leurs yeux, de voir la fierté de monsieur pour dire « Ah, qu'elle est belle! Ah, que je suis fier d'elle! Ah, c'est mon épouse, c'est mon amour, elle est à moi, on va faire... » Voyez-vous là, tout ça là? C'est ça la présentation. Vous allez voir, tu vas voir Jésus droit dans les yeux avec ce moment de fierté que Jésus sera fier de toi pour dire « Je suis mort pour elle, je suis mort pour lui, je suis tellement fier de cette personne-là » et on aura cette conversation-là basée sur la fierté qu'on est en relation avec lui. OK? On est amoureux avec lui. Bon, c'est ça là. Donc, Zachée, tout un bonhomme. Et encore là, lui, il est un peu la solution de toutes nos questions de qu'est-ce que le bonhomme riche n'a pas fait. Bon, vous avez peut-être lu le texte. Une observation que j'aimerais faire avec Zachée, que c'est un homme assez distant. Il n'a probablement pas été aux conférences données par Jésus dans d'autres moments. Il était trop occupé avec l'hôtel de ville de Montréal, de la mafia de son temps. C'était vraiment un gars tordu, riche. Tout était sombre dans sa vie, sa façon qu'il a exigé l'argent de tout le monde à gauche et à droite. Une sorte de protection organisée que lui contrôlait beaucoup d'affaires et tout et tout. Très, très... sombre comme style de vie. Et maintenant, le fait qu'il court voir Jésus, il y a une certaine curiosité. Qui imaginerait que ce serait lui qui s'intéresserait à voir Jésus? Okay? Juste voir. Parce que là, le gars est trop distant. Et encore, je fais la petite réflexion sur cette page-là de ceux qui sont distants. Regarde... Juste de voir Jésus, OK? Il n'est pas capable, il est trop court, il essaie il est trop petit, qu'est-ce que je fais pour le voir? Mais les gens distants font des drôles de choses pour voir la vérité. Comme Hérode, quand il a emprisonné Jean-Baptiste, il était fasciné de juste l'entendre. Il est curieux, il ne sait pas quoi faire avec, il lui-même... tiraillé de « qu'est-ce que je fais ça? » Et il était très perplexe. Pourtant, il écoutait avec plaisir. Okay? Le gars qui a décapité Jean, à cause de sa blonde et tout ça, donc c'est un contexte assez compliqué, mais il y a du monde qui vient de loin, comme on a vu avec Nicodème, qui vient de lui. Colossiens 5, 4 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors, parce que les gens de dehors vous regardent. Ils peuvent être plus curieux, plus observateurs, plus qu'est-ce qui se passe? Plus dans les arbres, OK? Qu'on imagine, parce que là, on parle, il n'y a rien à savoir. Mais s'il y a un coq de ne rien savoir, c'est Zaché. Ah, dimanche matin. Zaché. Bon. Mais là, qui sont les personnes distantes dans ma vie? Sont-elles aussi impossibles que je pense? Est-ce qu'il y a des personnes qui courent autour, qui sont plus curieuses que je pense? L'accueil personnalisé de Jésus, c'est ça ce qui est frappant dans ça, que Jésus l'appelle par son nom et dit « Écoute, viens chez moi! Je viens chez toi plutôt. Okay? Je m'invite chez toi, organise un souper, bon, on va souper ensemble. » Et quand Jésus fait ça, il l'appelle par son nom. Dans le texte, ça dit « Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit « Zachée! » À toi de descendre. Dans vos observations du texte, comment Jésus savait son nom? Il y a quelques possibilités. De un, dans le texte, on n'a pas. Luc ne nous dit pas que Jésus chuchote c'est qui ce gars-là? Et que dans la foule, il dit c'est Zachée, qu'est-ce qu'il fait là? OK, peut-être. OK? Ou que Jésus connaît tout le monde par leur nom, whatever, on ne sait pas. OK? Mais de toute façon, à haute voix, en public, pour dire « Hé, Zachée! » Donc, si vous avez vu le film Jésus, là, ils mettent tout le monde est souriant dans cette scène-là. Ils sont presque riants tout le long. Zachée prend un plaisir fou de descendre. « Hein? Hein? Moi? » OK? Voyez-vous, comment il regarde? Comment as-tu pu penser à moi, là? Que tu m'appelles par mon nom? Tu m'invites à t'inviter. Quel honneur! OK? Il prend Zachée au sérieux. Juste le fait qu'il voulait le voir. OK? Donc, si je peux développer cet accueil-là pour pouvoir répondre à quelqu'un qui fait le tout petit geste de curiosité, de le valoriser. C'est assez intriguant comme style-là. Et donc, je vous ai donné des versets que Dieu nous appelle par nos noms, il nous connaît personnellement, il s'intéresse à nous. Et surtout, le dernier verset qu'on a en Apocalypse 3, qu'on applique fautivement au moment du salut, que Jésus invite des églises à venir souper, à reprendre communion avec lui, à passer du temps dans la joie avec lui. Donc, c'est le même Jésus, là, le même Jésus qui a invité Zachée à souper ensemble, je m'intéresse à toi. Jésus nous lance ce même appel pour nous de dire, j'aimerais donc souper avec toi. J'aimerais être en communion avec ton Église. C'est ma grande joie d'être avec vous, de passer du temps avec vous et pas juste de donner des pamphlets à tous les autres. C'est bien donner des pamphlets à tous les autres, mais moi, j'aimerais passer du temps avec toi. Donc, une question que je vous lance, est-ce que je vis dans cette communion avec Jésus? J'ai la joie d'être dans sa présence, la joie de souper avec lui. À la table, Seigneur, nous disons que on fera ça aux noces de l'agneau, on sera en communion avec lui. L'image d'être au ciel, c'est toujours d'être à table avec lui. Okay? Mais est-ce que nous vivons cette communion-là, cette joie-là d'être dans sa présence? Et aussi, une autre question. Est-ce que je suis plus préoccupé par le ministère que par des individus, une personne à la fois? Est-ce que j'ai un style de dire, j'ai tellement... Mais est-ce que les personnes, les individus, les appels... Là, quand le téléphone sonne à mon bureau, je dis, qu'est-ce que ça va être? Bon, non, j'ai tellement de choses à faire, là, j'ai tellement... Et combien de fois, en répondant au téléphone, est-ce que dans ma voix, dans mon âme, dans mon être, la personne me dérange? OK? OK, il y a un temps pour un répondeur, c'est vrai, pour être organisé, pour être concentré. Mais là, est-ce que... Et j'ai perdu l'habitude, je dois le reprendre, de dire, en prenant le téléphone, de dire, Seigneur, il y a une personne importante avec qui je vais parler. Aide-moi de parler comme, de façon cohérente et de valoriser cette personne-là, cette demande-là, pour pas juste, ah non, j'ai pas le temps pour ça. Mais peut-être j'ai pas le temps. Je peux dire, honnêtement, j'ai pas le temps. Mais je ne dois pas dévaloriser la personne pour m'avoir dérangé. Okay, c'est ça. Okay. Gérer son temps, oui. Mais valoriser les personnes, chaque personne compte dans ma vie. Je dis ça, mais vivre ça, c'est un défi. Donc, la joie et l'indignation de l'accueil du pécheur, évidemment, Zachée, il est dans la grande joie d'être accueilli. Mais tous les autres autour ne sont pas dans la joie de voir Jésus faire ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Ne sait-il pas encore la fameuse question? Ne sait-il pas? S'il savait, c'est qui ce gars-là? Voyons, il ne serait jamais allé, c'est lui. Ben, voyons, c'est toute la question que Jésus mange avec des pécheurs. Donc, là, il y a toutes sortes de versets que les gens, comme avec le fils prodigue, où le père dit, « Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. » Il est revenu à la vie. Il était perdu, retrouvé, et il commence à se réjouir. Mais le fils aîné dit, il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Moi, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi tu invites quelqu'un comme ça? On pense toujours qu'on n'a pas ce problème-là, mais à quel point est-ce que je pense avoir mérité ma place? Que je suis beau et correct et fin en train de voir vraiment les transformations dans ma vie. Donc, il y a quelque chose en moi que, comparé à d'autres qui... Voyez-vous, là, ça s'installe assez vite. Le cœur humain est que... Oups. Et là, on va voir la repentance en action tantôt avec où Zachée tourne ses choses, ses richesses, avec joie aux pauvres. Il dit, prenons-le. Et surtout, le contraste avec le jeune homme riche qui est tout triste de les garder. Et Zachée, qui est tout dans la joie de s'en débarrasser. Évidemment, la différence, OK? C'est assez curieux. La différence, vous pouvez dire tout de suite, mais Zachée les a volés. OK? OK? Donc, il aime s'en débarrasser. C'est pas lui. OK? Mais le jeune homme riche a la fausse idée que ses richesses sont à lui. OK? Qui les a mérités. Et qu'à cause de ça, et peut-être il les a eu tout honnêtement, et peut-être il a respecté les 10 commandements. OK? Mais il pense qu'ils sont à lui. Zachée a, est dans une position joyeuse de savoir qu'ils ne sont pas à lui. Donc, il s'en débarrasse. C'est un collet, c'est un poulet. Je ne veux pas garder ça. Ça ne m'a pas aidé du tout. Le jeune homme riche ne sait pas ça encore. Il est tout emballé par toutes ses réussites et combien il a tout gagné, tout ça. Donc, c'est à moi. Il n'est pas capable de reconnaître que ce n'est pas à lui. Okay? Donc, c'est assez intéressant comme différence. Donc, Zachée prend ses richesses. Il les donne aux pauvres dans la grande joie. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça m'a donné quoi, ça? Donc, il court pour les donner. Donc, Jésus cherche les fruits de repentance. Il cherche que les gens mettent en action, en geste, en réalité. Il produisait donc du fruit digne de la repentance. Mais évidemment, vous voyez le jeune homme riche qui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste. OK, question de réflexion. Est-ce que j'ai la joie en donnant généreusement de mes biens? Mes biens, entre guillemets. Est-ce que c'est une grande joie pour moi de pouvoir me sacrifier, me donner, me faire du mal pour dire, hey là, c'est pas juste que j'en ai pas besoin, c'est quelque chose que j'ai besoin que je peux donner aussi. Les gens de mon église avaient une mauvaise habitude de penser qu'ils donnaient au Seigneur par des ventes de garage. J'ai rien contre des ventes de garage, c'est intéressant parce qu'on en a trop de stock, donc on peut écouler des centaines de dollars dans ça aussi. Mais quand la majorité de leurs efforts, c'est de se débarrasser du junk pour donner au Seigneur, pour penser qu'ils se sacrifient pour le Seigneur, à un moment donné, là, je dis, je préférais là, que le jour de paie, là, que vous décidiez un pourcentage quelconque, en premier, à donner au Seigneur en premier de vos biens. On appelle ça les prémices. Hein? On donne en premier au Seigneur et pas juste les choses qui traînent après. Est-ce que j'ai la joie à décider en premier que le Seigneur dans mes finances sera le Seigneur de ma vie par mon choix? OK? C'est un autre enseignement, là, évidemment. Mais la recherche divine, parce que dans le texte, là, ça dit, Jésus dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » C'est curieux que c'est Zachée, le fils d'Abraham, que Nicodème n'est pas. OK? Pas encore. Voyez-vous, le gros voleur, c'est lui qui est le fils d'Abraham et celui qui pense qu'il est le fils d'Abraham, qui ne comprend pas la nouvelle naissance. Mais non, je suis déjà fils d'Abraham et Jésus tourne tous à l'envers. Okay? Donc, c'est juste curieux de dans les contrastes avec ça. Donc, Jésus a... Mais c'est qui cherchait qui dans ce texte-là? Zachée cherchait Jésus en cachette, un petit peu, par curiosité. C'était-tu très profond? Je pense pas. Il était juste curieux de voir. Mais peut-être, on va voir une conversation. Je ne sais pas. Mais au moins, il s'est pointé. OK? Mais Jésus, son accueil, parce que en réalité, Zachée n'avait rien à perdre. OK? Au moins d'aller voir. Quand Jésus l'a appelé par son nom, Jésus avait beaucoup à perdre, encore de s'associer avec le plus grand criminel de la ville, OK? Pour dire, descends, j'aimerais manger chez toi. Et ouvertement d'afficher son amour pour le pire gars de la ville, en public. OK? Voyez-vous l'accueil à ce point-là? OK? Donc, c'est juste assez curieux ce qu'on fait. Donc, comme on a vu Jésus dire avec la Samaritaine, ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. OK. C'est qui que Dieu est en train de chercher autour de moi? Dieu est à la recherche des gens autour de moi. OK? C'est qui? Et la question que je peux vous poser, OK, Dieu est à la recherche des personnes. C'est qui que Dieu est en train de chercher autour de moi? Est-ce que j'ai les antennes pour imaginer que peut-être Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Et de voir les petits gestes de quelqu'un qui grimpait dans un arbre. Okay. Est-ce possible que cette personne-là, que je peux l'accompagner en faire un autre pas? Ou si vous êtes comme moi, je suis trop occupé, je ne l'ai même pas vu. Okay. C'est ça où je tombe là-dedans. Hein? OK. Ça va pour Zachée? Très, très intéressant. L'évangile de Luc parle plus des finances de tous les évangiles. Et si vous voulez être dérangé par vos finances, lisez bien Luc juste en question d'argent. Faites une lecture de Luc. Chaque fois quand il parle de pièces, là, Jésus va vous mettre au défi. Un des buts de Luc, c'est de montrer que si vous pensez garder tout ce que vous avez en suivant Jésus, vous ne le suivez pas. Okay? Ça, c'est un thème récurrent dans ce texte-là. OK, là, on peut avancer vers le bon larron. Mais avant d'aller au bon larron, parce que là, ça va vraiment boucler un peu le message de Jésus, ça viendra là, plus clair. J'aimerais juste vous signaler quelques pages en annexe, juste avant. Les pages 12, 13, 14 sont quelques observations de conversion que je vous ai données si jamais on avait des questions là-dessus. Page 12, ça va vous remettre en question. C'est un non-chrétien qui observe comment les gens vivent la conversion. Ça va rejoindre plus le petit livre bleu que vous avez, les histoires de conversion. C'est-tu lavage cerveau, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Mais là, vous pouvez mettre des noms sur des personnes qui ont fait exactement ces étapes-là que Toc parle, surtout les étapes de déconversion. Très intéressante de voir que quelqu'un peut être déconverti tranquillement et comment. Et vous avez vu ça dans vos groupes et dans vos églises. Page 13, c'est un article très intéressant parce que quelque part dans ça, vous allez vous poser la question, mais comment est-ce qu'on peut savoir si on est sauvé ou pas? Et c'est quoi le... Vraiment, c'est quoi le... Est-ce que j'ai vraiment... Et surtout dans le cas de quelqu'un d'autre, est-ce que, pourquoi il ne suit pas? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, tout. C'est un article de Hokma que je vous suggère à aller chercher si vous avez accès à une bibliothèque théologique. C'est un Suisse, donc on a toutes les réponses répondues pour nous, très systématiquement et très humblement et bien fait. Mais l'article est très intéressant. Je vous ai donné juste quelques indices. Il dit qu'il y a quatre critères pour voir la conversion dans un individu, pastoralement parlant, de tous les textes dans le Nouveau Testament. Et les quatre questions sont: que dit-il? Comment vit-il? Quelle expérience a-t-il vécu? Et persévère-t-il? Okay? Et mais l'argument de Bernard Bollé, c'est qu'il y a trois qui sont bibliquement très importantes et une quatrième qui peut varier selon la situation. C'est les deux premières: que dit-il, comment vit-il? Et quatrième, persévère-t-il? Les expériences de conversion, qu'est-ce que la personne a fait pour venir au Seigneur et son témoignage de comment le Dieu a radicalement changé, tout ça là, je dis, ouais. Ce n'est pas bibliquement la fondation d'une expérience de conversion pour devenir un disciple. C'est intéressant. Ça arrive à des gens, ça arrive pour venir à n'importe quel croyant dans n'importe quel mouvement. Les gens passent par des crises pour devenir après un « hum ». Okay? Ça arrive, l'être humain est capable de faire ça. Bon, mais c'est très intéressant et surtout son paragraphe de synthèse. Je vous ai donné l'avant-dernière phrase. Il est nécessaire qu'il y ait concordance du dire et du faire dans la durée. Par contre, l'absence durable et marquée d'un seul des critères permet l'interrogation quant à l'authenticité de la démarche de la foi. On peut dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Anyway, lisez ça, et puis si vous voulez aller plus loin, c'est très riche comme réflexion. Donc, je vous le recommande. Ça va répondre à bien des questions. Oui. Nouveau Testament. Nouveau Testament. OK. Excusez, c'est mon... Patelin, prof de Théo. OK. Page 14, on appelle ça l'échelle d'Engel, si vous avez manqué que c'est une échelle. Vous commencez en bas, et puis vous montez. OK? C'est juste ça. Comment une personne, quelles sont les questions que les personnes doivent, sur lesquelles ils doivent travailler pour avancer dans le Seigneur. La plupart des Québécois sont bloqués à moins 4. OK? C'est ça. Ils sont bloqués à moins 4. Qu'ils n'ont pas de disposition positive envers le messager, qui veut dire l'Église et les groupes chrétiens, n'importe quoi qui est organisé chrétien, ni le message pour dire que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour être notre sauveur et maître. OK? Parce que la question moins 4, ça, c'est si j'embarque dans votre chose, là, je deviens quoi? Et je dois croire quoi, là? Et donc, il y a tout ça. Mais en tout cas, vous pouvez... Il y a beaucoup, beaucoup de littérature dans ça. Parce que, qui dit le mot conversion? Il y a des dizaines de... Excusez, des centaines... Mais on a plus que 1000 articles et livres écrits sur la conversion ce temps-ci, là. Ma bibliothèque dans ça, c'est juste les plus intéressants, mais il y en a plein sur l'idée de conversion. Donc, ça, c'est pourquoi je suis intéressé à juste comment Jésus a vu les convertis, parce que pour moi, c'est plus clair. Vous pouvez lire éternellement sur la conversion, ça c'est certain. Bon, pour notre dernier, est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur les trois annexes là, c'est pour... OK? Il nous reste... Est-ce que j'ai à 8h30, c'est ça? Oui, on m'a dit? Oui, selon l'horaire. OK, j'ai 20 minutes pour faire le bon larron. Ce que j'aimerais faire avec le bon larron, c'est de le mettre en DVD en premier, la scène du film Jésus. Mais là, le travail que vous avez à faire, c'est que vous êtes le bon larron. Vous allez regarder la scène de la croix, de la crucifixion de Jésus, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est dit, comme si vous étiez le bon larron. OK? Et mon idée dans ça, parce que lui, il n'est pas nécessairement un étudiant à l'école biblique. Dans son temps, il n'a pas eu le temps, il était trop c'était le bad boy en train de faire des vols à l'étalage et toutes sortes de choses. Il était en train de... Ben, il n'était pas dans le ministère de Jésus du tout, il ne le connaît pas. Okay? Je prends pour acquis que c'était quelqu'un très, très distant qui, par malchance, se trouve à être mis à mort en même temps. OK? Qu'est-ce que je fais là? OK? Donc, qu'est-ce qu'il va comprendre de Jésus? Qu'est-ce qu'il y a comme indice? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il voit? OK? D'accord? On va juste jouer le film. Je l'ai à partir de où il lève la croix.
N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous! Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis. Avec moi.
Qu'est-ce que le bon larron a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que lui a comme matériel pour connecter à qu'est-ce qui se passe? Qui est Jésus? Random, là. Okay.
Peut-être ils étaient emprisonnés ensemble.
OK. On ne sait pas. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si on parlait, pouvoir parler ensemble avant. Qu'est-ce qu'il sait de lui, de cette scène-là? Ah. Oui?
Il n'a rien fait de mal.
Qu'est-ce qu'il dit, là? Il n'a rien fait de mal. Il voit la moquerie des gens autour, qui se moquent carrément. Si tu es le roi des Juifs, blablabla. OK. Il voit ça que, évidemment, les gens le détestent. Il lui rit en pleine face. OK? D'autres choses qu'il sait sur Jésus. C'est quoi son crime?
Roi des Juifs.
OK? Donc, c'est clair qu'il voit. Ben, c'est parce que l'autre, il dit, si tu es le roi des Juifs, sors-nous. Donc, ils savent qu'il est supposément un roi. OK? Il sait. Je ne peux pas prêcher là-dessus, mais peut-être il a entendu Jésus dire, pardonne-leur. OK? Et pour lui, d'entendre ça et de voir la réaction de Jésus, ça ne dit pas qu'il a entendu, mais ça dit que Jésus l'a dit. OK? Et qu'il arrive à la conclusion que Jésus n'a rien fait de mal. OK? Pour ça, c'est certain. Donc, il voit le contraste entre la moquerie et Jésus qui a l'air de bien répondre, même là, aux gens qui sont méchants. Okay? Donc, je suis parti en quelques observations, méditations de ça. Le pouvoir infini, pas du câble, mais du pardon. C'est quand quelqu'un, dans une situation difficile, démontre une attitude de pardon. Là, ça parle, parce que les autres vont dire, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui se passe que que c'était comme ça. Je vous ai donné un texte parallèle à côté. Quand Jésus dit ça, moi, je peux imaginer que le larron l'a entendu et là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour Jésus de dire « pardonne-leur ». C'est exactement la même situation qui a été dans la base de la conversion de Saul pour devenir l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah, la lapidation d'Étienne. Étienne a dit « Seigneur Jésus... » Ah ben, qu'est-ce que... OK. « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il meurt. La dernière chose que Paul a vue pour tuer ce gars-là, c'est un gars qui... La dernière chose qui est sur ses lèvres, « Pardonne-leur. » Ça a dû travailler dans le pour Paul pour dire, « Mais comment ils peuvent dire ça? Qu'est-ce qui se passe? » Donc, sa conversion plus tard... C'était le résultat de plusieurs choses qui le dérangeaient, y compris ce pardon-là, comme ça. Okay, Et est-ce possible que pour Jésus d'avoir dit ça, ça dérangeait ce gars-là sur la croix? Comment il peut dire ça? Comment? Donc, ma question pour vous, est-ce que les gens sont interpellés par ma tendance à pardonner aux autres leurs offenses contre moi? Dans un moment indiscret, dans un moment quand je ne sais même pas qui me regarde, est-ce que quand je suis capable de pardonner, c'est peut-être là la plus grande évidence, le plus grand témoignage que je peux avoir que je suis vraiment pas comme les autres. Et c'est ça qui a touché Paul, c'est ça qui a touché le bon larron. Les résultats à l'envers de la moquerie, parce que c'est la moquerie qui a attiré l'attention du bon larron. Pourquoi il se moque de ce gars-là? Plus il en mettait de moquerie, plus ça troublait le larron pour dire, mais ça n'a pas de place là. Je ne comprends pas. Plus il est dérangé par ça. Et quand l'autre embarque pour suivre la moquerie, là, il a son voyage. Mais voyons donc. Okay? Donc, c'est une accumulation de voir la moquerie comme quelque chose qui n'était pas correct, pas à sa place. Aucune raison pour ça. Et il y a des gens qui voient que c'est ce qui arrive. Donc, cette moquerie-là, plus il criait pour dire il s'est dit le roi des Juifs et tout ça, qui descend de la croix et tout ça. Jésus a dit à plusieurs reprises que la moquerie, Dieu n'était pas en perte de contrôle de ça, de tout ça. Je vous ai donné juste quelques versets de ça. Jésus a dit en Jean 12, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, » l'image de sa crucifixion, « j'attirerai tous les hommes à moi. » La moquerie que Jésus a attirée sur lui a en même temps attiré les croyants à lui. Donc, quand le bon larron voit cette moquerie-là, ça attire son attention de voir c'est qui Jésus. Autrement, si tout avait été lieu en silence et tout ça, le bon larron probablement ne serait pas affirmé pour voir que Jésus est quelqu'un. Mais c'est l'attaque qui a fait la réponse, qui a fait la remise en question de ce gars-là. Donc, est-ce que je vois la moquerie envers moi, envers mes frères et sœurs, envers Jésus? Est-ce que je vois la moquerie comme une opportunité pour manifester la victoire ultime de Jésus? Ou est-ce que je suis juste fâché? Je vous dis, là, c'est un outil très efficace. L'homme le plus méchant, la femme la plus méchante envers Jésus ne peut pas lui faire mal. Il ne peut pas nous faire mal. Ils vont finir par nous aider, par l'aider, lui, parce qu'il a déjà la victoire. Et ça peut attirer la même remise en question, la même réflexion chez d'autres. Pourquoi il dit ça? C'est-tu juste? C'est-tu correct? Donc, ne soyez pas trop frustrés devant la moquerie. C'est peut-être un indice que Dieu est à l'œuvre. OK? Le nœud de la repentance. Là, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a comme matériel là? Il voit que Jésus est cloué pour être le roi des Juifs. Il voit que Jésus n'a rien fait. Il voit que Jésus pardonne aux autres. Et là, il vient vraiment à une phrase, à une demande assez étonnante. pour lui, comme réflexion, là, je dois... Évidemment, il est dans une situation de crise. Il lui reste quelques heures au max de vie encore. Et donc, on réfléchit beaucoup dans cette situation-là. Et son cellulaire est fermé. Et il n'y a pas d'autres préoccupations maintenant, là. Il va mourir. Il y a juste ça à réfléchir. OK? Donc, la concentration, les conditions pour se concentrer sont toutes là pour les quelques heures qu'il sera lucide encore. OK? Donc, il est très lucide pour réfléchir sur qu'est-ce qui se passe. Et il arrive à la... Mais là, il arrive... Son texte, là, il dit... OK. Verset 42. Toute une phrase. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans cette toute petite phrase? Voyez-vous l'affirmation de la foi? C'est incroyable, c'est très dense. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il croit qu'il est le Messie. Okay? Quand tu reviendras ton roi, il croit qu'il sera le roi, il croit qu'il aura un royaume. OK? Gardez bien le verbe là, qui aura. OK? Il a connecté que le royaume, c'est pas maintenant, pour que Jésus, c'est évident qu'il n'a pas gagné là. OK? OK? Mais il a dit, mais ça veut dire que ça reviendra. OK? Parce que les autres le crucifiaient pour avoir prétendu d'être le roi, en le clouant à la croix, c'est fini. Mais ce gars-là dit non, c'est pas fini. Spécial, là, comme extrapolation. OK? Ce n'est pas fini. D'autres choses qui sont dans cette phrase-là, qui a connecté, là. Oui? OK, là, la relation, souviens-toi de moi, toi, moi, souviens-toi de moi, c'est toi qui peux être mon sauveur, c'est toi qui as à se souvenir, c'est toi qui va inviter les gens à entrer dans le royaume, je crois ça, donc je te demande à te souvenir de moi. OK, c'est spécial, là, OK, une foi personnelle, OK, non?
Oui.
Oui, oui.
Il dit, pour moi, comme japonais, c'est très choquant qu'un criminel ait l'audace de demander ça à un roi.
Mm-hmm.
Il est en train d'être puni pour un crime.
Mm-hmm.
Puis
mm-hmm.
Au lieu de dire, au lieu de se fermer la bouche, il dit, ben, pourrais-tu te souvenir de moi?
Ah, oui, non, il a l'audace pure. Là. Évidemment, dans une culture orientale, là, tu fais pas ça. Il a l'audace. C'est un saut de la foi incroyable. Juste une autre observation dans ça. Nous entendons toujours, Dieu est injuste, je souffre pour toutes les choses injustement, et lui, pas correct, il ne fait rien. Hein? Combien de fois vous entendez ça? Sur la ronde dit, il n'a rien fait, il souffre injustement, moi je reçois ce que j'ai fait. Complètement à l'envers. Ce que j'ai là dans ma vie, je l'ai bien mérité. Lui n'a pas mérité. Il souffre injustement. Je veux avoir la foi en lui. OK? Donc, oui, nous vivons les conséquences comme image de Dieu, de nos choix. Et la plupart des choses que les gens déplorent comme péché, comme chose injuste et tout ça, c'est le fruit des décisions, des actions des hommes que Dieu nous a pris au sérieux pour dire « C'est ça ce que vous faites? » Allez-y, mais vous allez vivre des conséquences. C'est mérité. OK? Et Dieu a souffert pour ça. Voyez-vous comment c'est à l'envers? Mais ce gars-là, il a catché l'idée. OK? Que la souffrance, ça vient de la part de Dieu, mais Dieu a souffert injustement et moi, je suis coupable. C'est toute une prise de conscience. Donc, il me reste 30 secondes, quoi. Bon, c'est bien. Question pour nous. Tu vois-tu vraiment, est-ce que je suis quelqu'un qui a offensé Dieu? est-ce que j'ai vraiment ce que je... Si j'étais sur la croix moi-même, je l'ai bien mérité, moi. OK? J'ai offensé Dieu. C'est pas juste que j'ai pas été peut-être correct. J'ai craché dans le visage de Dieu. Je voulais pas l'avoir dans ma vie. Et parfois, je crache encore. OK? L'apôtre Paul dit, Jésus est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier, pas dont j'étais le premier. OK? Bon, c'est tout ça, là. Trop de conviction, il faut avancer. Bon, te vois-tu, Jésus, comme étant celui qui a pris tes offenses contre Dieu? Okay? C'est ça, le cœur de l'Évangile. Ce gars-là voit que Jésus est en train de souffrir, il est innocent. Pourquoi il fait ça? Souviens-toi de moi, tu fais quelque chose que je ne comprends même pas, mais je sais, je crois en toi que tu seras le maître de ce royaume-là. Le contenu de sa foi, c'est évident qu'il croit que Jésus est sauveur, il croit qu'il est le roi, il croit qu'il est innocent, il croit qu'il reviendra, il croit qu'il peut donner la vie à quelqu'un après sa mort. OK? Souviens-toi de moi, il va le ressusciter. OK? Il y a toutes sortes de doctrines là, en filigrane tout de suite. Là. Donc, dans les Actes des Apôtres, ils vont annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, son royaume s'en vient. OK? Donc, question de réflexion. Quels éléments de la proclamation apostolique sont présents dans ma foi présentement? Parce que là, je vais terminer avec ça vite. Hein? Après la mort de Jésus, après sa résurrection, les apôtres ont annoncé, les témoins oculaires qu'on a vus dans le film tantôt, ont proclamé l'ensemble des croyances, les grands fils de leur croyance en Jésus-Christ. Et c'est ça ce qu'ils ont annoncé. C'est tiré de chaque sermon en les Actes des Apôtres, un résumé de... Parce qu'il y a à peu près le même message qui est donné dans les Actes des Apôtres. La personne et la vie historique de Jésus. Il proclame que Jésus est une vraie personne, une vraie personne historique et tout ça. Et tout ce qu'il a fait. Deuxièmement, ah oui, vous n'avez pas ça, vous. Et c'est dans mon lit, par exemple. Donc, bon. Anyway. Ah, cheap. Anyway. L'œuvre de Jésus par la croix pour le pardon des péchés. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? La résurrection de Jésus pour la vie nouvelle. OK? Et c'est ça. Le larron a cru ça. OK? Le témoignage officiel des apôtres. Nous sommes des témoins, nous l'avons vu ça. Donc, vous avez vu les témoins officiels de la croix et ils deviendront les témoins officiels de la résurrection, comme ils étaient de la vie historique de Jésus. Donc, ils ont raconté sa vie, c'est son enseignement et ses miracles. Témoignage des Écritures, c'est pas un hasard que Jésus est venu. C'était prédit. Il a dit, je fais ça pour que, aujourd'hui, ces paroles sont accomplies dans... Donc, c'est pas juste un gars qui était brillant, c'est un gars qui a accompli bien des choses qui ont été écrites avant, et les apôtres ont le fond noir de tout, citer toutes sortes de choses qu'ils ont découvert après, que c'était prédit, qu'ils ne soupçonnaient même pas. Donc, numéro 6, la repentance et la foi démontrée par le baptême d'eau, c'était ça l'annonce des apôtres, la repentance est toujours là. Tu n'es pas en contrôle. Ce n'est pas toi qui vas être en charge. Tu ne manipules pas Dieu. Tu ne seras pas, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas d'avoir des choses à ta façon. Tu viens, tu plonges dans l'eau. Tu es enseveli. Et là, tu remontes en nouveauté de vie. Ça n'a jamais changé la proclamation. Ça, pour la transformation par le Saint-Esprit, c'est pas juste être sauvé pour pas changer. Il y a vraiment un projet dans notre vie et qu'il y aura le retour imminent de Jésus-Christ comme roi. OK? Voyez-vous, ça, c'est la foi toute développée de Nouveau Testament, des apôtres. Et ma question pour vous, c'est quels éléments de la proclamation apostolique devraient me parler plus qu'ils me parlent présentement? Est-ce qu'il y a un élément dans ça que j'ai vraiment pas fouillé? Que je n'ai vraiment pas ancré ma vie dans ça. J'ai peut-être l'expérience de salut, mais on a vu dans l'article que c'est l'expérience, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que c'est dans la durée? Qu'est-ce que je vis? Quelles conséquences? Et est-ce que ma foi est vraiment solide dans tout ça? Évidemment, ça, c'est un autre sujet. J'ouvre une autre porte pour une autre conférence. Là. Les conversions dans le Nouveau Testament, c'est une autre, dans les l'Acte des Apôtres, et dans, c'est une autre conférence. Donc, on va faire ça un autre moment. Donc, la promesse de Jésus. Dernière chose que je vous ai donnée aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La page, je vous ai donné une page sur le paradis. Je ne sais pas laquelle. Oh, la page 11. On ne va pas le faire, là. Mais, parce que là, quand Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Aujourd'hui, là, vendredi soir, samedi matin, où était Jésus? Au tombeau, là. Son corps est au tombeau. Donc, c'est où le paradis? On ne parle pas de résurrection des corps. On ne parle pas de dimanche matin, là. « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Donc, c'est quoi le paradis? C'est quoi le lieu des morts? Où sont-ils? Qu'est-ce qui se passe? Nanana. Je vous ai donné une feuille juste de quelques pistes de réflexion des versets bibliques pour voir où sont les morts maintenant, avant la résurrection, pour être avec lui pour l'éternité. Bon, OK, donc, amusez-vous bien avec ça. Donc, question de réflexion pour terminer. As-tu la vie éternelle aujourd'hui? Crois-tu que Jésus sera avec toi dans le paradis? Et en as-tu hâte? Dernier verset. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Donc, c'est notre grande espérance. On va le voir droit dans les yeux. On va voir cette conversation-là avec lui. Et ça va être notre plus grande joie. Il sera fier de nous. Comme une épouse, il sera très content d'avoir cette conversation. OK? Bon, ça, avec ça, ça se termine. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.